Je me pose mes affaires, je prends mes marques. Très heureux de vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est vrai que ce matin, on est parti un peu sous la neige à Grenoble. Moi, il ne neigeait plus, j'habite à Grenoble, juste à la sortie de Grenoble. Ma foi, l'autoroute était bien dégagée, alors ça va, on a bien roulé jusqu'ici. On est bien arrivé. On est très heureux de passer cette matinée avec vous, d'inaugurer ce second culte, enfin ces deux cultes, cette formule de culte. En son temps, à Paris, nous avions connu ça, deux cultes, mais je ne sais pas si j'aimerais bien prophétiser pour vous. Nous, on a commencé à deux, mais sachez qu'on a fini à cinq, hein, le dimanche. Donc, je ne sais, ça serait merveilleux si ça vous arrive. Votre pasteur serait très constant alors d'avoir beaucoup d'aide, vous aussi, mais le Seigneur, eh bien, en tout cas, nous permet des fois de tenter des choses nouvelles et de peut-être aussi, eh bien, toucher de nouvelles personnes. En tout cas, que Dieu vous bénisse, c'est super d'être ensemble. Ce matin, dans quelques instants, je vais parler de l'Église. Et je veux dire, c'est vrai que comme nous sommes itinérants, notre emploi du temps s'est un peu allégé. Il nous arrive de faire des cultes en Zoom, là où on nous demande, ou d'aller dans des églises aussi, où il y a simplement l'aspect technique, on est là, mais il n'y a pas d'auditoire, on prêche devant des caméras ou autre chose. Mais quand on retrouve une assemblée, c'est particulier. Alors, nous ne savons pas ce que ça va donner dans les semaines prochaines, mais chaque week-end, nous pouvons nous retrouver, chaque moment, nous sommes ensemble, en tout cas dans l'assemblée. C'est un moment privilégié, c'est un moment de grâce. Profitez de chacun de ces instants, vivez-les à fond, et nous prions que le Seigneur nous permette de les retrouver rapidement. Voilà donc, avec mon épouse, depuis quelques temps, ce nous a conduit à voyager dans différents endroits, à l'étranger, puis en France, depuis que nous avons quitté Paris. Puis depuis quelques temps, nous tournons comme itinérants. Nous avons visité presque plus d'une quarantaine d'églises. Donc, on a vu le travail de Dieu qui se fait dans des grandes, comme dans des petites églises, dans des églises plus anciennes, comme dans des églises en cours d'implantation. Et on s'est vraiment réjoui de ce que Dieu est en train d'agir dans notre pays. De belles choses se passent et la gloire du Seigneur se manifeste et elle se manifestera encore. Et nous croyons que ce n'est pas le Covid qui empêchera cela, et qu'avec le Saint-Esprit, nous irons plus loin, nous irons de l'avant. Voilà, donc nous sommes itinérants pour quelques temps encore, et puis donc nous ne sommes pas directement pris en charge par une église, nous vivons essentiellement des dons que nous recevons, et puis le Seigneur nous a permis aussi d'écrire. Moi, pendant que j'étais sur Paris, j'avais accumulé beaucoup d'études, sur la personne, le ministère de Jésus, des choses que j'ai pu enseigner dans des écoles bibliques. Et le Seigneur m'a permis d'écrire ce livre qui sert aussi au soutien de notre ministère. Donc, ça s'appelle « Jésus de la terre jusqu'au ciel ». C'est un livre entièrement sur Jésus. Voilà. Il nous parle du ministère de Jésus, de la personne de Jésus depuis son incarnation, sa naissance à Bethléem, jusqu'à son intronisation dans le ciel, donc de Jésus homme à Jésus Dieu. Et tout ça aussi, c'est aussi notre propre parcours, une découverte de Jésus, c'est aussi une découverte de la foi pour avancer dans tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Voilà, ce livre est à votre disposition. Et puis il y a aussi quelques études, il y en a quatre qui sont là, deux qui ont à voir avec le ministère du Saint-Esprit, une sur les dons, une sur l'autre consolateur, une sur le retour de Jésus et une sur servir dans l'Église. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez venir nous voir à la fin du culte. Mon épouse me dit aussi, si on essaie de s'adapter, donc on a la possibilité, si vous souhaitez, de pouvoir régler par sans contact. Voilà, c'est bien, la technologie est là, on profite de tout ça. Dans quelques semaines, nous serons aussi vos voisins. Nous allons, au mois d'avril, nous installer dans la région de Genève. Je vais être pasteur de l'église de rue du Jura, à Genève, l'église de Réveil. Et donc, je crois que nous maintiendrons aussi une communion avec les frères, les églises d'Annemasse, de Thonon, et puis aussi les églises de Haute-Savoie, d'Annecy. On se réjouit. Aussi, à Genève, il y a beaucoup aussi de frontaliers qui sont là dans l'Assemblée. Et d'après ce que j'ai compris, il y en a aussi beaucoup parmi vous qui montent à Genève tous les jours. Vous êtes courageux pour le faire. Et donc, on se réjouit que l'œuvre du Seigneur avance dans cette région. Voilà, je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler de l'Église. Romains chapitre 12, verset 4. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Notre Père, ce matin, nous ouvrons encore ta parole, et pour nous, ta parole est la source de notre foi, de notre édification. Elle est cette lumière qui conduit nos pas sur le sentier, jour après jour. Et Seigneur mon Dieu, ta parole est vivante, et c'est ton esprit qui la rend vivante en nous. Et Seigneur, ce matin, je prie pour que tu me permettes de rendre vivante ta parole par ton esprit. Et Seigneur, je prie que tu disposes nos cœurs, notre intelligence à recevoir ta parole, afin de faire grandir notre foi encore. Et je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous, prier pour les familles de cette assemblée, prier encore pour que ta grâce repose sur eux tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'Église. Et c'est une merveilleuse déclaration que nous faisons. Nous sommes l'Église. Évidemment, pour les gens qui nous entourent, ça serait peut-être une drôle de déclaration parce qu'ils auraient du mal à considérer d'eux-mêmes qu'ils sont l'Église. L'année dernière, j'étais en mission dans l'église d'Amiens. Amiens, il y a une magnifique cathédrale. J'ai profité quand même pour aller la visiter. Puis là, en sortant, une mamie rentrait avec sa petite fille en disant « Nous rentrons dans la maison de Dieu, nous rentrons dans l'église. » Et pour la plupart de nos concitoyens, c'est vrai que l'église, ce sont ces pierres magnifiques, ces vitraux extraordinaires, ces rosaces, tout ça, toute cette construction qui date, qui perdure à travers les siècles, elles sont belles, ces pierres. Et malgré tout, nous savons que ce n'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. La parole nous l'a montré, et surtout la pratique nous l'a fait toucher du doigt. Pour nous, avant toute autre chose, l'Église, c'est une assemblée. L'Église, c'est un rassemblement. C'est ça le sens même du mot grec à l'origine du mot église. Une assemblée, un rassemblement, non pas une organisation, non pas même une institution, mais un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Et pour nous, cette assemblée, c'est le rassemblement le plus extraordinaire qui existe. Et quand je regarde les églises, je regarde la vôtre ce matin et nous regardons qui nous sommes, nous pourrions dire, mais comment se fait-il que nous soyons rassemblés dans un tel lieu? En dehors de ce lieu, rien ne nous rassemblerait. Nos affinités culturelles, nos origines ethniques, peut-être notre milieu social, notre travail, nous n'avions peut-être rien en commun. Il y a quelque chose qui nous a rassemblés. Évidemment, c'est Jésus-Christ. Et alors, nous disons, comme l'apôtre Paul l'écrit au verset 5, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Et de plus en plus, dans nos églises, c'est vrai, nous sommes plusieurs. De plus en plus différents les uns des autres. Et ça nous rappelle que l'église n'est pas un lieu d'uniformité ou un lieu presque de formatage des gens. Mais l'église de Jésus-Christ est avant tout une diversité. Une diversité enrichissante, une diversité rafraîchissante. Malgré tout, nous prétendons à une unité de foi, à une unité de cœur, à une unité d'espérance. Au point d'affirmer que si nous sommes plusieurs, la suite du verset, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps dans lequel nous avons tous une place. Chacun d'entre vous avait une place dans l'assemblée, non pas simplement parce que vous avez trouvé une chaise pour vous asseoir. Là, quand je parle de place, c'est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond que cela. C'est que dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes tous regardés comme des fils et des filles de Dieu, comme co-héritiers du royaume de Dieu à venir, mais nous sommes tous aussi des adorateurs, des prêtres dans la maison du Seigneur, et c'est ainsi que nous occupons cette place. Et nous l'occupons pas simplement d'une manière individuelle ou individualiste ou solitaire, mais quand nous venons pour former ensemble l'Église, nous y venons dans un esprit d'interdépendance et de mutualité. J'y trouve une place, mais j'y trouve une place à côté de mes frères et de mes sœurs. Nous sommes l'Église. Nous sommes, c'est ce qu'il écrit à la fin de ce verset 5, tous membres les uns des autres. Le Seigneur nous a rapprochés au point, donc, de former cette interdépendance et cette mutualité. Cette mutualité dans l'Église se manifeste dans un esprit d'amour, d'encouragement, de consolation. Et cette mutualité se manifeste aussi par les dons que le Seigneur nous accorde. Verset 6, nous avons des dons différents. Et ces dons que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous, j'insiste, chacun d'entre nous, ces dons ne sont pas pour notre bénéfice personnel, mais pour mieux nous servir les uns les autres et servir notre prochain. Ainsi, nous avons aussi une contribution dans le corps de Christ. Nous avons une place et nous avons une participation ou une contribution dans l'assemblée du Seigneur. Autrement dit, nul n'est négligeable, nul n'est à négliger. Vous avez une place dans la maison du Seigneur et vous avez aussi une contribution à apporter dans cette Église de Jésus-Christ. Alors pour nous, l'Église est un endroit formidable. Nous louons Seigneur, nous encourageons, nous recevons sa parole, nous prions les uns pour les autres, nous voulons vivre davantage notre foi ensemble. L'Église est formidable, mais elle est aussi indispensable. Elle est indispensable pour notre foi. Ce n'est pas que l'Église est la médiatrice des bénédictions de Dieu, ce n'est pas notre doctrine du tout, hein. L'Église n'est pas médiatrice, le seul médiateur c'est Jésus-Christ. Mais il n'empêche que c'est au milieu d'elle, c'est en elle, l'Église corps, l'Église assemblée, que nous fortifions notre attachement à Christ. L'Église est le corps, Christ est la tête. Nous sommes les membres du corps. Et aucun membre du corps n'a de sens et d'existence en dehors du corps. Le membre, un membre de notre corps ne vit que parce qu'il est rattaché au corps. Nous n'étions pas naturellement membres du corps de Christ. Aucun homme, aucune femme n'est né par la chair membre du corps de Christ. Ce n'est pas par la chair que l'on devient membre de l'Église, mais c'est par l'Esprit qui nous a renouvelés, qui nous a rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Et par notre baptême, je ne sais pas où est votre baptistère, là. Le baptême, c'est le témoignage de notre foi. Et Paul l'écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, c'est aussi le témoignage de notre incorporation à l'Église. nous devenons membres de l'Église. C'est l'entrée dans une nouvelle relation, dans une nouvelle forme de vie aussi, d'engagement dans notre vie. Nous sommes donc membres du corps, bien plus, nous sommes devenus membres les uns des autres, parce que nous nous attachons à une communauté locale, nous nous attachons à une assemblée. Pensez à cela. Les membres de notre corps, que ce soit les membres visibles extérieurs, que ce soit les organes intérieurs, ces membres ne sont pas, comment dire, directement attachés à la tête. Ils sont avant tout attachés les uns aux autres. La main est attachée au poignet, le poignet qui est attaché à l'avant-bras, etc., etc. Et c'est à travers le cou, finalement, que nous sommes rattachés à la tête. Eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ, il en va un peu pareil. Nous sommes attachés les uns aux autres et dans cet attachement collectif, nous sommes ensemble attachés à Christ. Nous sommes ensemble attachés à la tête. Paul l'écrit dans Colossiens 2:19, de la tête, tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Donc tout le corps, il y a la tête et il y a le corps. Que serait le corps dont les membres et les organes seraient tous attachés à la tête? Dans la nature, j'ai essayé de réfléchir à ça, un céphalopode, un calmar, une pieuvre. Bon, il y a plus sympathique comme créature, n'est-ce pas? Mais vous savez, parfois, c'est ce qu'on pourrait trouver comme sorte de raisonnement parmi les chrétiens. Moi, je suis attaché à la tête. Oui, on est rattaché à la tête, c'est vrai. Mais avant tout, ce que le Seigneur a voulu dans son plan, c'est que nous soyons attachés les uns aux autres. Je suis attaché à mon frère, je suis attaché à ma sœur, même s'il est différent de moi, et c'est ensemble que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que nous soyons différents les uns des autres, parce que, justement, ce que tu apportes, moi, je ne peux pas l'apporter, ce que j'apporte, toi, tu ne peux pas l'apporter. Que serait notre corps si notre corps n'était que entièrement que main? Ben non. Nous avons deux mains, nous avons deux pieds, en principe, nous n'en avons pas plus. Et puis après, il y a toutes sortes de choses dans notre corps, heureusement. Certains sont des organes qu'on va dire très importants. Le cœur, les poumons, le foie, etc. D'autres, parfois, nous paraissent un peu moins importants. La rate, oui, bon. La vésicule biliaire, oui, oh bah oui. Bon, c'est pas grand-chose. Oui, sauf que le jour où ça tombe malade, vous n'êtes pas bien. C'est pour ça que nul n'est à négliger. Ah oui, mais moi, je ne suis pas ce frère. Ah, je ne prie pas comme cette sœur. Ah, ceci, ah, cela. Oui, peu importe. Parce que certainement, le Seigneur a mis en toi un don et t'a placé une place particulière pour la bénédiction de l'Église. Si tu n'occupes pas cette place, c'est dommage. C'était la place que le Seigneur avait préparée. Et alors, il va y avoir quoi? Il va y avoir un trou, je ne sais pas. Et des fois, il y a des trous dans les églises. Parce qu'il arrive aussi que certains des frères et sœurs occupent la place, mais n'exercent pas leur contribution. Et c'est dommage aussi. Parce que si Christ nous place à une place particulière dans le corps, c'est pour que nous puissions servir d'après ce que Christ a prévu. Le Seigneur a placé, je ne sais pas, notre foie là où il l'a placé, nos reins là où il les a placés, avec l'idée qu'ils fonctionnent d'une certaine manière. Nul n'est négligeable, nul n'est à négliger. Alors maintenant, certains pensent que l'Église dont nous avons besoin est avant tout spirituelle, parfaite et universelle. Et certains vont alors chercher une église qui dépasse les dénominations, une église qui n'est pas liée à des hommes, à des ministères ou à des institutions, une église qui n'est pas liée à un emplacement, à un bâtiment, à une église qui n'est pas même liée à des rassemblements locaux réguliers. Et cette église, alors, ce serait la véritable épouse de Jésus-Christ. Moi, c'est cette église-là que je veux. Parce que cette église est parfaite.
parce qu'elle n'est pas faite là d'hommes, de femmes et de ceci, de cela, qui sont encore pris dans leur chair. Dans... Oh, okay. Cette Église existe. Cette Église parfaite existe. Cette Église universelle qui dépasse les nations, les dénominations, les générations, elle existe. Mais aujourd'hui, elle est invisible. Aujourd'hui, elle est invisible, on dit même qu'elle est mystique. Dans le sens où elle ne sera révélée qu'au temps du retour de Jésus-Christ, lorsqu'il viendra rassembler les siens et les emmener dans sa présence. Alors oui, cette Église sera révélée. Mais aujourd'hui, cette Église, qui peut l'appréhender? Cette Église universelle. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est ce que nous appelons l'assemblée locale, l'Église locale. Et cette Église, évidemment, elle est visible parce qu'elle est composée de disciples de Jésus-Christ imparfaits, mais qui malgré tout ont décidé de cheminer ensemble, de s'accorder les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, d'apprendre à s'aimer les uns les autres et à servir ensemble et à se servir les uns les autres. Et ça, c'est la volonté du Seigneur. Parce que Dieu est un Père. Il rassemble les siens. Le Seigneur est un berger, nous l'avons chanté. Il rassemble son troupeau. Et que faisons-nous? Acte 2, 42, les disciples persévéraient. Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Vous allez me dire, c'était le programme. On connaît bien ça. Hein. Il n'y a pas, dans ce verset-là, il n'y a pas de choses extraordinaires qu'on n'aurait pas découvertes. Mais ce sont ces choses qui sont fondamentales pour la vie de l'Église, dont nous avons besoin. Et nous le mesurons, d'autant plus que nous sommes privés, d'une certaine manière, de vivre vraiment ces choses comme nous en avions l'habitude. Et puis l'Église, c'est aussi un temple d'adoration. Là, je parle de l'Assemblée. C'est le lieu où nous célébrons un culte à notre Seigneur. Et quand nous sommes là dans ce temple d'adoration, ce temple fait d'hommes et de femmes, nous sommes le temple, vous êtes le temple, je suis le temple du Seigneur, eh bien, il y a là une présence particulière du Saint-Esprit. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il faut avoir été pendant un temps séparé de la communion fraternelle et de la communion de l'Esprit au sein de l'Assemblée pour réaliser le bénéfice extraordinaire que nous avons dimanche après dimanche, réunion après réunion, de nous rassembler ensemble dans la présence du Saint-Esprit. Et l'Église, c'est aussi une maison de prière pour toutes les nations. C'est une synagogue où la parole est prêchée et enseignée. C'est un lieu d'encouragement, de consolation. Et c'est aussi un témoignage vivant de l'Évangile dans la ville et auprès de nos prochains. Et mes frères et sœurs, petites ou grandes, par la taille de ville ou de campagne, dans un bâtiment ou dans une maison, il n'existe pas une Église, mais des Églises. Et d'ailleurs, souvent dans le Nouveau Testament, il est question des églises. Et chacune des églises est connue individuellement par notre Seigneur. Rappelez-vous les lettres aux sept églises d'Asie au début de l'Apocalypse. Vous savez, comme le Seigneur parle à ces églises, et il commence souvent en disant « Je connais ». « Je connais tes œuvres, ta foi, ta persévérance ». Parfois, il rajoute aussi « Mais ce que j'ai contre toi ». Ainsi, le Seigneur a un message différent pour chacune d'entre elles, un message particulier, un message spécifique fait d'encouragement, de consolation, de promesse et d'avertissement si nécessaire. Chaque Église est connue de Jésus-Christ, chaque Église a une valeur aux yeux de Jésus-Christ, peu importe que ce soit une Église de 30, une Église de 200, une Église de 1000 ou de 10 000, toutes ont la même valeur aux yeux de notre Seigneur. L'importance de l'Église locale est une des grandes redécouvertes de la foi chrétienne, notamment parmi les chrétiens évangéliques. Nous sommes très attachés à l'Église locale. Et nous croyons dans un modèle d'Église mature, d'église locale mature, d'église locale autonome. Non pas d'églises qui s'ignorent les unes des autres, non pas des églises qui veulent maintenir farouchement leur indépendance, au risque même de l'isolation. Mais nous croyons dans des églises reliées ensemble, mais qui localement sont des églises matures. On parle souvent de trois choses en missiologie. On parle d'une église mature, c'est une église qui assure son autogouvernement, c'est-à-dire qu'elle est capable de se gérer par elle-même dans tous les aspects de la gestion. Une église qui s'auto-développe, c'est-à-dire qu'une église qui va susciter au milieu d'elle la croissance qui est nécessaire pour chacun des membres, et puis une église qui va s'auto-propager, c'est une église qui va grandir vers l'extérieur, qui va accomplir son ministère d'évangélisation. Et lorsqu'une église remplit ces trois caractéristiques, autogouvernement, autodéveloppement, autopropagation, alors on peut dire que c'est une église mature, c'est une église autonome, qui n'oublie pas malgré tout qu'elle fonctionne en solidarité avec les autres. Et ce modèle-là d'église, ce n'est pas une invention du siècle dernier, mais nous croyons que c'est celui que nous trouvons dans les Écritures, des Actes à l'Apocalypse, de Jérusalem à Rome. Nous rencontrons un grand nombre de ces assemblées locales, autonomes, mais reliées entre elles, notamment à travers les ministères des apôtres. Et les églises locales sont la force du christianisme. Frères et sœurs, on peut regarder dans certains pays... Prenons peut-être ceux qui sont les plus médiatiques, un pays comme les États-Unis, on va dire, l'Église, oui, l'Église, on va penser alors peut-être à telle grande Église, si vous connaissez un petit peu. Ces Églises ont des grands bâtiments, ces Églises, ils ont des chaînes de télévision, okay, c'est vrai. Mais je vais vous dire, ce qui fait la force du christianisme évangélique aux États-Unis, c'est la multitude innombrable d'Églises de 100 ou 200 personnes. D'églises semblables à celles que nous avons dans notre pays. C'est ça la force, la colonne vertébrale du christianisme évangélique aux États-Unis. Ce ne sont pas les grandes églises, elles sont minoritaires en termes de nombre. Mais le christianisme aujourd'hui, c'est un réseau innombrable d'assemblées réunissant des multitudes d'hommes et de femmes dans la plupart des pays du monde, parfois souvent publiquement et parfois secrètement en raison de persécutions. Et ce qui est beau, c'est que, en acceptant la diversité d'expression, Jésus ne nous demande pas d'être tous identiques. Beaucoup d'églises, les églises sont différentes, non seulement à travers les continents, mais aussi même dans notre pays. Les églises sont différentes, ont une sensibilité, une expression différente, et nous voulons accepter ça. Bien sûr, parfois, il nous arrive, il faut être prudent aussi. C'est évident, on exerce un discernement, une intelligence. Mais dans les églises où nous allons, nous croyons y trouver une part de notre famille. Même si nous voyageons un peu moins en ce moment, mais chaque fois que vous avez eu l'occasion de rentrer dans une autre église, eh bien vous regardez ceux qui sont là comme étant aussi vos frères et vos sœurs. Et nous croyons qu'ils nous regardent aussi comme nos frères et sœurs et non pas comme des étrangers. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et dans notre fonctionnement normal, en temps normal, on est même invité par nos frères et sœurs à partager avec eux la table du Seigneur. Le même pain, la même coupe. Et c'est ça, n'est-ce pas, aussi la beauté de l'Église de Jésus-Christ? C'est ça notre force. Cet ensemble d'églises locales, vivante, active. Alors, connaissant l'importance des assemblées, Satan a toujours cherché par un moyen ou un autre à les stopper. Persécution, fermeture d'église, arrestation des serviteurs de Dieu, des interdictions de rassemblement, refus de permis construire, ça c'est ce qui nous arrive plus dans nos pays, hein. Ou refus d'achat de locaux, etc. Mais dans l'histoire, comme aujourd'hui, la plupart de ces tribulations sont généralement locales ou régionales. C'est dire alors l'ampleur de ce que nous avons vécu et continuons de vivre depuis plusieurs mois maintenant à travers la pandémie de Covid-19. Bien sûr, évidemment, les raisons sont sanitaires et ont touché l'ensemble de la société, les administrations, les écoles, les universités, les commerces, les entreprises, les cinémas, les restaurants, etc., etc., etc. Et les églises. Mais ce que nous observons, c'est que les églises ont su s'adapter. Et pour beaucoup d'entre elles, et je le vois, c'est le cas vous aussi, ça nous a obligés à réfléchir un peu différemment, à oser faire des choses que nous n'aurions jamais fait sinon. Je dis que cette période du Covid, pour nos églises, a été à la fois un temps d'accélération et un temps d'innovation. D'innovation parce que, oui, nous, pressés par les événements, nous avons fait des choses que nous n'aurions pas faites sinon. Aujourd'hui, vous commencez un deuxième culte. On me dit que vous avez aussi un culte en audio à 8h30. Et peut-être d'autres choses qui pourraient... Et vous savez, dans d'autres églises, bon, mais suivant les possibilités locales, on a essayé d'inventer des choses, de faire des choses nouvelles. Ah, sinon, on ne les aurait jamais faites. Et puis un temps d'accélération, parce que certains disaient, oh, allez, par exemple, aller sur YouTube, aller sur ceci, ça, bon, bon, bon. Et puis, par la force des choses, on y est allé. Et on apprend, et on progresse, et on se rend compte que, c'est ce que votre pasteur me disait, qu'à travers vos cultes en audio, vous touchez davantage de personnes que peut-être ce que vous rassemblez d'habitude. Et donc, Seigneur, tu as permis que quelque chose se passe. Alors, merci aux pasteurs, aux techniciens, merci aux musiciens, merci à tous ceux qui s'impliquent dans tout ce travail, parce que ça contribue au développement de l'évangélisation. Malgré tout, jamais dans l'histoire, même en temps de guerre, à un tel niveau universel, tant d'églises ont été dans l'impossibilité de se rassembler, ou alors dans des conditions strictes, limitant leur ministère. Mes frères et sœurs, ce que je veux finir en disant ce matin, le diable cherche à s'en prendre, et je ne dis pas la crise sanitaire est diabolique, mais je crois que c'est aussi un moyen que Satan peut utiliser, cherche à s'en prendre à ce qui est un de nos piliers et une des forces de l'Église locale, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et je me mets en garde et je vous mets en garde contre un christianisme de repli, contre un christianisme de canapé et de salon qui se réfugie derrière un écran. Et encore une fois, je ne dis pas que je suis contre cela. Les médias sont très importants. Nous avons commencé les cultes en vidéo à Paris, je crois que c'était en 2008. Donc, c'est très, très longtemps qu'on est habitué à ça. Mais pour autant... Jamais un écran ne devrait se substituer, à part cas exceptionnel comme dans les confinements, à l'Assemblée locale. Oh, je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas nous parler à travers un écran. C'est vrai, il peut le faire. Mais l'Église, mes frères et sœurs, l'Assemblée, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que jamais un écran, même les programmes de meilleure qualité ne pourront compenser. Alors nous sommes là face à ce défi cette année de devoir retrouver le chemin de nos assemblées. Ce n'est pas toujours facile. Savez-vous par exemple qu'au Canada, aux États-Unis, ça fait maintenant 10 mois que les églises sont fermées dans beaucoup d'endroits des États-Unis. Que même en France, il y a encore certaines églises qui sont fermées depuis 10 mois. Et nous voyons des chrétiens avec qui nous avons perdu contact. Et mes frères et sœurs aussi, un des fardeaux que nous pouvons avoir, et je sais que vous êtes dans cette situation-là pour des raisons locaux, c'est aussi la question de nos enfants, de nos ados. Ils sont dans un moment difficile. Nos jeunes souffrent. Parce que ils ont besoin de se retrouver ensemble, de s'encourager. alors nous devons rester attachés à notre assemblée. Ce que nous vivons là ensemble est une grâce, et maintenant nous le redécouvrons, et que Dieu nous amène à veiller sur cette communion fraternelle. Nous dire, bon, c'est quand même bon d'être avec nos frères et sœurs. Parce qu'ensemble, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'ensemble, nous formons l'Assemblée. Alors oui, je prendrai ce texte, je sais qu'il a souvent été utilisé à tort et à travers, Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas nos assemblées. » Mais il a été écrit dans un moment particulier, lorsque ces disciples d'origine juive pouvaient risquer de retourner à la foi juive, d'abandonner l'Assemblée parce qu'il y avait quelques persécutions. Et là, l'apôtre leur dit, n'abandonnez pas vos églises. Nous avons entendu souvent les reportages de l'AEP, les reportages de la mission Porte Ouverte sur les persécutions dans le monde. Et nous savons que pour des frères et sœurs, ce n'est pas possible qu'ils se rassemblent comme ça publiquement, qu'ils soient en Algérie, qu'ils soient en Irak, qu'ils soient en Corée du Nord. Et dans leur situation, c'est très particulier. Je crois que la grâce de Dieu est avec eux malgré tout. Mais pour nous, eh bien, nous sommes là, nous avons été dans une période difficile. Pour certains, la période de confinement a été une épreuve de la foi terrible. Pour d'autres, ça a été un moyen de se rapprocher du Seigneur. Mais en même temps, ça nous a amené à languir de l'Église de Jésus-Christ. Alors oui, nous sommes nous comprenons davantage ce que vivent nos frères et sœurs dans certains pays du monde quand ils ne peuvent pas se rassembler. Mais alors utilisons chaque possibilité que nous avons pour nous rassembler. Pour nous rassembler, parce que c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous accorde. Encourageons-nous dans cette année. Nous ne savons pas ce que vont être les semaines à venir. Tant que nous pouvons rester ouverts, restons ouverts. Et puis, si nous devons fermer, encourageons-nous. Mais ensemble, persévérons dans la foi, persévérez dans la foi, attachez-vous à votre assemblée. C'est un lieu béni, c'est un lieu unique, c'est un lieu incomparable, c'est un lieu dans lequel vous avez une place, cette place que Christ a préparée pour vous. Et c'est un lieu dans lequel vous apportez aussi une contribution à travers les dons que le Seigneur vous accorde. Que cette période nous apprenne à réapprécier la valeur de l'Assemblée, à redécouvrir pleinement l'importance de l'Église. J'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de trouver mes frères et sœurs. Et que c'est bon d'être ensemble pour louer et adorer Dieu. Nous sommes l'Assemblée. Nous sommes l'Église de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là dans une situation particulière et ce que nous vivons, évidemment, depuis plusieurs mois, a pu éprouver notre foi, nous amener dans beaucoup de bouleversements. Mais je veux me réjouir, Seigneur, chaque fois que je vois une assemblée comme celle d'Annecy qui se rassemble, peut-être qui se réorganise, qui reconsidère son fonctionnement. Mais Seigneur, mon Dieu, être au milieu de l'assemblée, c'est une source de bénédiction. Mon âme est rafraîchie et je suis heureux, Seigneur, de pouvoir chanter avec mes frères et sœurs, louer ton nom avec eux. Et Seigneur mon Dieu, je prie pour que ces choses grandissent encore en nous, que nous en redécouvrions toute la valeur, toute l'essentialité pour notre vie. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Nous serions fous de croire que nous n'avons pas besoin de notre frère, de notre sœur et que nous pourrions vivre par nous-mêmes. Mais Seigneur mon Dieu, tu nous as attachés à l'Assemblée. Tu nous as placés dans l'Église. Merci pour ces frères et sœurs. Je te prie de les encourager. Merci pour le développement, la reprise de la vie de cette Église qui commence maintenant ce second culte. Et je te prie encore de les amener plus loin, mon Dieu, et de permettre que des personnes nouvelles entendent ta parole, que le ministère de l'Esprit, de la parole, continue dans cette ville et dans les villages aux alentours. Et Seigneur, donne-nous de vivre encore l'Assemblée, semaine après semaine. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ton plan qui est extraordinaire. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.